1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Jean-François Zorn, vous êtes un historien spécialisé dans l'histoire de la mission. Vous avez été professeur, vous êtes professeur émérite de l'Institut protestant de théologie de l'Église protestante unie et vous avez publié de très nombreux ouvrages. Donc vous êtes parfaitement qualifié pour nous aider à comprendre un peu l'évolution de la mission et le rattachement de cette mission aux réformateurs, principalement à Calvin et Luther. Aujourd'hui, dans la plupart, sinon dans tous les pays du monde, il y a des églises protestantes et souvent cela est dû à la mission. Et la question se pose donc de savoir en quoi cette mission, qui a donné naissance à ces églises, est-elle un héritage de Luther et de Calvin ?
Bonjour, c'est en effet une très bonne question, mais la réponse première qu'on peut donner, c'est que le mouvement missionnaire protestant ne s'est pas référé aux réformateurs Luther et Calvin. Le mouvement missionnaire protestant est né, comme le mouvement catholique d'ailleurs, au XIXe siècle, dans un temps où les protestants envisageaient de faire une seconde réforme qu'ils ont nommée le réveil, considérant que la première n'avait pas eu de projet missionnaire. Et en effet, si on regarde l'histoire, il n'y a pas au XVIe siècle d'équivalent de société, de création de sociétés missionnaires et de mouvements missionnaires protestants pour des raisons que l'on peut évoquer rapidement. D'abord, les protestants ne se trouvaient pas dans une position analogue au catholicisme. Ils n'avaient pas de prince protestant rallié à la réforme qui pouvait aider les missionnaires à partir outre-mer comme c'était le cas dans l'Église catholique. Deuxièmement, les protestants de l'époque de la Réforme avaient bien d'autres chats à fouetter, si je puis dire, ainsi que d'aller évangéliser le monde entier. Ils voulaient réformer l'Église et le christianisme en Europe. Et troisièmement, les protestants étaient choqués par la vision conquérante que les catholiques avaient de la mission, notamment dans le Nouveau Monde d'Amérique du Sud. Donc il n'y a pas eu de mission rattachée à la Réforme classique de Luther et de Calvin, mais au XIXe siècle, les protestants ont pu partir en mission parce que la situation mondiale a changé pour eux, ils ont eu des ouvertures, on pourrait dire, et ils ont, à ce moment-là, replongé dans les Écritures pour fonder leur mouvement missionnaire.
Mais les réformateurs Calvin et Luther lisaient la Bible aussi, et ils lisaient notamment le livre des Actes et l'expansion du christianisme à partir des premiers missionnaires chrétiens.
Mais vous avez raison, parce que en fait, cet exemple-là de la Bible, les Actes des Apôtres, par exemple, on connaît ce texte où l'apôtre Paul, le texte de la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul est arrivé à Troas pour prêcher l'Évangile. Et puis, il avait un projet missionnaire, en quelque sorte, et il n'a pas pu faire son projet parce que la nuit, il a eu un rêve et il a été appelé en Macédoine. Donc, il s'est orienté vers la Macédoine. Le Macédonien est devenu la figure du païen qui appelle le missionnaire. Alors, voilà, les protestants du XIXe siècle ont bien lu ce texte, mais Calvin lui-même l'avait lu dans son temps et avait parlé de la porte ouverte ou fermée. Il y avait des temps où Dieu fermait les portes et on ne pouvait pas faire la mission, et d'autres temps où les portes étaient ouvertes. Voilà. Alors on peut dire que là, effectivement, sans le savoir peut-être, les protestants du réveil ont redécouvert une lecture que Calvin avait faite de ce texte des Corinthiens.
Mais ils ne sont pas référés directement, comme vous le disiez, aux réformateurs, ni à Luther, ni à Calvin, quand ils ont commencé ce travail.
Voilà, parce qu'il y a eu toute une tradition théologique qui a considéré que la Réformation s'était repliée, en quelque sorte repliée, ou s'en était tenue à l'Europe et n'avait pas eu de projet missionnaire, ce qui les a en quelque sorte disqualifiés au nom de ceux qui voulaient faire ce réveil. Mais il y a bien d'autres textes que les gens du réveil ont lus, notamment sur le règne de Dieu, hein, l'extension du règne de Dieu. Eh bien, Luther lui-même, puisqu'on a parlé de Calvin il y en a instant, parlons de Luther. Luther, dans son grand catéchisme, a fait de grands développements sur le règne de Dieu. Et précisément, le règne de Dieu ne doit pas se conquérir par la force, mais c'est le règne de Dieu qui vient dans les cœurs, et ce règne qui vient dans les cœurs peut s'étendre au monde entier. Et donc, il y a une vision pacifiste, l'extension du christianisme. Eh bien, les gens du 19e siècle ont redécouvert ça, mais là encore, sans se référer directement aux réformateurs, mais en retrouvant ces intuitions dans la Bible.
Et à partir de quelle décennie, à partir de quelle période du 19e siècle a-t-on commencé justement à revenir aux réformateurs et à se dire, dans le fond, ça vaut la peine de les relire?
Eh bien, d'abord, il faut bien dire que le mouvement missionnaire du 19e siècle n'était pas un mouvement intellectuel. Il n'avait pas des sources, des ouvrages théologiques. Et ils se sont dit que au temps de la Réforme, il y a eu trop de polémiques avec le catholicisme. Donc, si vous voulez, on n'a pas véritablement relu les classiques. Alors, quand est-ce que on a commencé à se dire que tout de même cette mission protestante se référait quand même de fait, sinon de droit, aux réformateurs? Eh bien, c'est d'abord quand des missions luthériennes se sont déployées dans le monde. Au début, les premières missions étaient des missions ni luthériennes, ni calvinistes, mais des missions évangéliques, comme on disait. Et c'est quand les missions luthériennes sont parties à partir de 1850 que, effectivement, les luthériens eux-mêmes se sont, référés directement aux réformateurs. Et les missionnaires qui étaient de tradition réformée ou calviniste, ben, ont relu aussi les réformateurs. Et progressivement, on a laissé tomber cette polémique stérile qu'on avait développée vis-à-vis d'une réformation qui avait été en quelque sorte sourde à la mission, pour retrouver ces intuitions des réformateurs. Et aujourd'hui, bien évidemment, on voit la Fédération luthérienne mondiale, l'Alliance réformée mondiale, qui s'appelle maintenant la Communion réformée œcuménique, de relire effectivement les réformateurs et s'inscrire, disons, dans cette grande tradition qui va du XVIe siècle de la Réforme en passant par le XIXe siècle du Réveil.
Et est-ce que cette lecture des réformateurs a modifié sur la façon d'entreprendre la mission ?
Je ne pense pas qu'elle ait véritablement modifié la vision de la mission, si ce n'est que quand la mission a connu l'étape de la création des églises, voilà. Alors on a retrouvé l'intuition qu'avaient eu les réformateurs, principalement Calvin, par exemple, qui a, comme on le sait très bien, depuis Genève, aidé les protestants français à planter des églises, donc avec un système ecclésial. Et finalement, la mission au XIXe siècle a retrouvé, elle aussi, cette perspective de plantation de l'Église en se référant aux méthodes de Calvin. Création d'églises locales avec un pasteur, avec un conseil presbytéral, etc. Donc à ce moment-là, on a repris les intuitions des réformateurs.
Est-ce que aussi l'utilisation des langues vernaculaires, des langues locales, n'est pas un héritage d'une certaine manière des premiers réformateurs qui ont voulu faire connaître la Bible dans la langue que comprenaient les gens ?
Absolument. On peut dire ça aussi. Effectivement, on le sait très bien que la première version du petit catéchisme de Luther, c'était un abécédaire, et donc on alphabétisait à partir de la Bible. Eh bien, les protestants du XIXe siècle, que ce soit dans la mission intérieure en Europe ou la mission extérieure, ont alphabétisé avec la Bible, les écoles du dimanche en Europe, mais aussi dans les pays de mission. La première chose qu'ont fait les missionnaires, c'est de traduire la Bible dans les langues locales. Donc on a trouvé là aussi, retrouvé là, une intuition des réformateurs qui ont traduit la Bible en allemand du côté de Luther, en français du côté de Calvin.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce tableau, évidemment forcément rapide, compte tenu du temps dont nous disposons, par rapport à cet héritage ? Est-ce qu'à votre vie, il faut le cultiver ? Est-ce qu'il faut le poursuivre aujourd'hui ?
Alors, comme tous les héritages, il est bon sinon de le retrouver, en tout cas de le vivifier. On a parlé à d'autres occasions de commémoration actualisante. L'intérêt de reprendre les réformateurs, ça a été les 400 ans de la naissance de Calvin en 2009, c'est maintenant les 500 ans de la publication des thèses de 95 thèses de Luther. Très bien. Le problème, ce n'est pas de répéter ce qu'ont dit Calvin et Luther, mais c'est de retrouver ses intuitions et de, je dirais, surtout renforcer la communion des Églises, puisque nous savons très bien que le protestantisme a eu, entre autres, difficultés. C'est qu'il s'est divisé. Là encore, les gens du réveil pensaient, créer des églises post-dénominationnelles qui ne seraient ni luthériennes, ni calvinistes, ni baptistes, ni méthodistes. Et puis finalement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc aujourd'hui, en redécouvrant cet héritage, il faut le retrouver en commun. Et c'est heureux de le retrouver avec les catholiques. Ce qui se fait d'ailleurs, il y a une numéro spécial de la revue Spiritus qui va prochainement sortir, en juin là, sortir tout un numéro sur la réformation protestante et la mission. Donc c'est cet héritage vivant qu'il convient de retrouver.
Eh bien, merci beaucoup Jean-François Zorn de nous avoir parlé ainsi de la mission et du lien qui la rattache aux réformateurs, même si ce lien a été parfois un peu fluctuant. Et voilà, nous vous disons au revoir et merci encore.
Merci à vous de m'avoir donné la possibilité d'expliquer ce problème intéressant.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestant 2017. Vivre la fraternité.
Cette émission vous a été présentée par Christian Delors pour Radio Alliance Plus.